à l'échelle nationale de surveillance des eaux? Et donnez-nous quelques exemples illustrant comment les données ont été utilisées dans le contexte national pour la prise de décision publique et pour adapter la riposte. Merci Luca à l'avance de ces informations. Merci beaucoup. Merci également à notre collègue de Norvège pour cette session très intéressante. Ce défi, qui s'inscrit dans le défi plus large de la COVID, a exacerbé les difficultés dans notre secteur puisque l'on nous a demandé de lancer des recherches, de mettre sur pied un système de surveillance, de donner des orientations pour les États membres et de coopérer comme cela n'a jamais été le cas auparavant, en allant de l'approvisionnement en eau jusqu'à la surveillance clinique de haut niveau. Donc, ce sont deux mondes complètement séparés. Au début, la surveillance clinique considérait ces exercices comme un jeu. Peut-être intéressant, certes, mais pas vraiment utile par rapport à des échantillons cliniques. Maintenant, nous allons tous dans la même direction et tout a été fait en un an. Et c'est peut-être l'une des conclusions générales les plus importantes. En ce qui concerne la surveillance du SARS-CoV-2 et des eaux usées, je pense que cela est une bonne pratique, même si ce n'est pas la meilleure, une bonne pratique pour les synergies. La gouvernance sanitaire régionale et nationale a tendu à garantir la pérennité du système. Il s'agissait de travailler avec des autorités locales et régionales pour la collecte d'échantillons et l'analyse en laboratoire. À l'heure actuelle, 20 sur 21 régions ont rejoint le système de surveillance nationale et contrôlent toutes les usines de traitement des eaux. Il y a aussi, comme vous le savez, la Commission de l'Union européenne qui a émis une recommandation en 2021, la recommandation 162. C'était vraiment le moteur de tout ce que nous avons fait. Et nous étudions toutes les usines de traitement des eaux qui desservent plus de 150 000 habitants deux fois par semaine. Et il y a un échantillonnage hebdomadaire également pour le traitement des eaux desservant les usines de traitement des eaux desservant plus de 50 000 habitants. 167 points d'échantillonnage sont utilisés sur tout le territoire italien et 43 laboratoires au total participent à l'exercice. Ils sont tous qualifiés et certifiés après un contrôle de la qualité. Il y a également des agences de protection de l'environnement, des instituts de prophylaxie, des zoonoses et d'autres instituts de recherche qui participent. Et les fournisseurs d'eau participent. Nous utilisons des méthodes harmonisées qui ont été mises au point et distribuées par un institut national. Mais je dois dire que tout dépend des autorités sanitaires des régions. Donc, les régions gèrent les analyses, les laboratoires et les données. Et nous recueillons toutes les données régionales. Nous avons dépensé près de 3 millions pour une année. Donc, c'est un coût raisonnable, je dirais. En ce qui concerne les actions, les mesures, la découverte des sources épidémiologiques du SARS-CoV-2 a été importante, mais dans le cas des variants, la surveillance environnementale a permis de mettre à jour des variants avant la surveillance clinique, et c'était vraiment important. C'est très intéressant. C'est comme si on avait un projecteur qui nous permet de voir la propagation des variants en temps réel. Pour conclure, sachez que nous envisageons un index d'infection fondé sur les eaux usées pour compléter, non pas remplacer, mais compléter ce que nous faisons sur le plan clinique. On peut envisager une hospitalisation à des fins de surveillance, mais il y a d'autres méthodes. Dernier mot en ce qui concerne les possibilités d'autres surveillances, possibilités de surveillance d'autres maladies, pardon. Dans l'aéroport de Fiumicino, nous avons également pu détecter le virus de la variole du singe. Donc l'expérience de l'Italie montre que ces approches sont tout à fait viables et peuvent être conjuguées avec d'autres indicateurs cliniques de santé publique pour adapter la gestion.